Et de retour d'un voyage qu'il a effectué en Chine, Daniel Habert analyse la réaction des Chinois face aux décisions de Donald Trump sur les droits de douane. On vous en parlait dans le journal d'ailleurs. On parle également de l'impact que cela pourrait avoir sur Israël et ses relations avec ces deux grandes puissances économiques. Voici Daniel Habert, il est au micro comme d'hab de Blaise van der Linden.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin, comme tous les lundis matins sur Radio Judaïka pour nos traditionnelles conversations. Alors Daniel, vous revenez de Chine et ça va être le sujet de nos conversations aujourd'hui. Donald Trump a lancé son offensive contre les États étrangers, l'Union européenne et la Chine principalement. Vous y étiez à ce moment. Quelle impression en retirez-vous? Quelle est l'opinion des Chinois par rapport à cette guerre commerciale lancée par Donald Trump?
Alors, j'ai trouvé une opinion chinoise extrêmement informée de ce qui se passe. Pas du tout surprise de l'offensive anti-chinoise parce que c'était au fond la principale idée forte de Trump. C'est s'en prendre à la Chine. Donc enfin, il est là. Et j'ai trouvé un peuple chinois pas inquiet et très déterminé. Alors, j'étais dans une ville qui était pas indifférente, c'est une grande ville qui est au sud de la Chine, qui s'appelle Xiamen, 8-10 millions d'habitants, mais qui est en face de Taïwan. C'est vraiment la ville qui est le plus concernée par Taïwan. C'est de là qu'il y a eu des combats avec deux petites îles qui appartiennent à Taïwan, mais qui sont tout proches du littoral chinois, qui s'appelle Kemoi et Matsu, et qu'on voit quand on est sur la plage à Xiamen. Et cette plage où j'étais s'appelle la plage de Une Chine, deux systèmes. Et il y a une grande banderole en lettres gigantesques rouges qui dit Une Chine, deux systèmes, tellement grande qui semble pouvoir être vue de Taïwan avec des jumelles. Et alors, ce que j'ai vu, c'était des groupes de Chinois, des groupes d'entreprises qui venaient faire une petite escapade sur la plage avec des petits drapeaux chinois devant cette banderole Une Chine, etc., dansant des rondes sur la plage, des sortes de hora en agitant les drapeaux. Donc une sorte de détermination, mais plutôt bon enfant, quoi. C'est du patriotisme. Mais pas très excité, hein. C'était du patriotisme tranquille. Donc je dirais une sorte de force tranquille. Par contre, les gens avec qui je travaillais, j'étais à un colloque justement sur les relations entre Chine et Israël. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. La volonté, c'est de ne pas se couper d'Israël. C'est de dire, nous passons une mauvaise période parce que vous, Israéliens, vous êtes entraînés dans la confrontation avec les États-Unis, hein. On y peut rien, mais attendons que tout ça passe et gardons des liens pour le long terme. Donc ça, c'est plutôt positif, mais l'idée, c'était quand même que nous, Chinois, c'était des membres du parti, hein, avec qui j'étais, nous, Chinois, il n'est même pas question de céder. L'époque où l'arrogance occidentale pouvait imposer une humiliation à la Chine, c'est terminé pour toujours. Et donc la résilience et la détermination de la Chine étaient vraiment imposante. Et la conclusion, j'en ai terminé, c'est que finalement, si Trump agit comme ça, c'est que c'est bien analysé par les Chinois. Les Américains sont en déclin. Et donc, c'est face à ce déclin que Trump essaye de redresser maladroitement la barre. Voilà un petit peu l'opinion que je ramène.
Alors, sur cette base, hein, que vous venez d'expliquer, comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous analysez cette confrontation entre les États-Unis et la Chine? Peut-on parler de nouvelle guerre froide?
Certainement. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est toujours les États-Unis qui déclenchent les hostilités contre la Chine. C'était Obama dès 2011 avec sa politique étrangère du pivot, c'est-à-dire que je me concentre sur la Chine et je me retire du reste. Et ce que Trump est en train de faire, hein, il est en train de se retirer de l'Europe. Et hélas pour Israël, si on a le temps d'en parler, on en parlera une autre fois, c'est se retirer aussi le plus possible du Moyen-Orient. Biden a ajouté l'insulte à l'hostilité en parlant du génocide des Ouïghours. Et il n'y a pas plus de génocide des Ouïghours qu'il y a de génocide à Gaza. Mais vous voyez, quand on crache dans l'air, comme disait Confucius, il y a toujours le risque que ça vous retombe dessus. On a parlé de génocide des Ouïghours, maintenant on parle de génocide des Gazaouis, et tout ça est ridicule parce que c'est pas de ça. Il n'y a pas plus de génocide là-bas qu'ici. Et malheureusement, les Chinois ont été gravement blessés par Biden. Et Trump 1 avait déjà lancé une offensive de droits de douane. Et Trump 2, maintenant, c'est une offensive qui ressemble effectivement, comme vous le disiez, Blaise, à une nouvelle guerre froide. Alors, cette guerre froide, et ça c'est mon deuxième point, n'a rien à voir avec celle de avec l'Union soviétique, parce que l'Union soviétique c'était un pays au fond affaibli, avec 4 ans de guerre, 20 millions de morts, petite économie, qu'elle est toujours d'ailleurs, c'est une petite économie. Par contre, la Chine, c'est la deuxième puissance économique du monde, elle n'est pas seule. Donc une guerre froide avec la Chine, ça n'a rien à voir. Et ça risque alors vraiment de perturber gravement l'économie mondiale, chose qui n'était pas le cas pendant la première guerre froide. Et pour cette raison, je pense qu'il y aura certainement des solutions de sortie. Je n'imagine pas que ça aille trop loin. Soit que Trump trouve une pirouette, comme il en a l'habitude, pour revenir à des discussions avec l'Europe et avec la Chine. Soit que, en fait, on reconstitue une autre globalisation. Plus régionalisé, donc on aura le temps d'en parler une autre fois, mais qui a déjà commencé en fait depuis une dizaine d'années. Donc, si vous voulez, la possibilité de se replier sous un autre format dans le monde, si les États-Unis maintenaient leur pression de guerre froide sur la Chine, existe déjà. Et donc, ça sera pas la fin du monde. Par contre, et ça c'est malheureusement déjà inscrit, tout ça, le mal est déjà fait. C'est-à-dire que on est parti pour un ralentissement du commerce international, un ralentissement de la croissance, une explosion de l'inflation, une méfiance qui va être durable entre la Chine et les États-Unis, et puis surtout pour les entreprises toutes, hein, y compris américaines, une période d'incertitude, de ralentissement des investissements. Donc on est en train de créer une crise, et même si aujourd'hui Trump cédait du terrain, la crise risque de se développer quand même. Et puis, si vous voulez, il faut jamais oublier que des crises économiques raidissent les opinions publiques, raidissent les gouvernements, obligent les gouvernements à chercher des boucs émissaires et conduisent à des crises politiques, voire à des guerres. Donc tout ça est un scénario plutôt pessimiste, même si cette guerre froide dont vous parliez n'allait pas jusqu'au bout.
Alors, pour terminer, Daniel Habert, vous évoquiez dans ces conversations l'impact que cela peut avoir sur Israël. Comment est-ce que cette situation peut-elle être appréhendée à la lumière des offensives de Donald Trump?
Oui, vous savez, jusqu'avant Trump lance toutes ses offensives, Israël pouvait se dire qu'elle avait quand même redressé la situation née du 7 octobre, qu'elle avait retrouvé sa crédibilité militaire, sa supériorité militaire. Elle avait plus ou moins réussi d'ailleurs à sauver son économie aussi, même si il y a des chiffres inquiétants, mais quand même l'économie tient. Mais aujourd'hui, avec cette politique trumpienne, on voit bien que la situation au Moyen-Orient risque d'être extrêmement difficile à gérer, et que les espoirs d'Israël, que ses victoires sur tous les alliés de l'Iran conduisent à une sorte de structure plus durable de paix au Moyen-Orient. C'est pas ce qui est en train d'arriver, parce que la négociation qui s'engage avec l'Iran s'engage de façon qui inquiète beaucoup Israël. C'est-à-dire qu'il est clair qu'aujourd'hui, vous savez, Israël a analysé la situation. Seul le démantèlement du programme nucléaire iranien les rassurerait. Il n'y a pas d'autre voie. Ce démantèlement, soit par les bombes, soit par la volonté, l'acceptation par l'Iran. Donc, je démantèle mon équipement nucléaire et il y a une levée des sanctions qui va me rendre riche et je vais pouvoir passer à autre chose. Je pense que ça, c'est la seule solution pour Israël, mais c'est pas ce que Trump a en tête. On voit bien que là, le vrai problème, c'est entre Israël et les États-Unis. Trump est plutôt sur une voie de trouver un nouvel accord avec l'Iran, qui ressemblera finalement à celui dont il était sorti parce qu'il était mauvais de 2015, c'est-à-dire qu'il laissera l'armement nucléaire iranien dans l'état où il est aujourd'hui, avec une promesse des Iraniens, mais que valent les promesses iraniennes de ne pas le poursuivre avec des inspections, etc., avec auxquelles personne ne croit. Et donc, si vous voulez, ce danger pour Israël va entraîner d'autres dangers, c'est-à-dire une perte de crédibilité de la puissance américaine au Moyen-Orient, qui rendra beaucoup plus difficile deux autres négociations, on en reparlera, celle avec l'Arabie saoudite. qui est indispensable pour régler la question palestinienne à l'intérieur d'une sorte d'extension des accords d'Abraham. On voit mal l'Arabie Saoudite aujourd'hui faire confiance dans des États-Unis qui signeraient un mauvais accord avec l'Iran. Et je ne parle pas aussi des négociations nécessaires avec la Turquie, qui est en train de prendre la Syrie sous son contrôle et menacer directement Israël à sa frontière nord. Donc voyez que pour Israël, j'ai un peu le regret de dire ça à l'issue de cette période de Pessah, mais il y a des raisons de se faire du souci. Et on sent bien que Israël et Bibi sont soucieux de ce développement et que c'est donc cette négociation interne entre Israël et les États-Unis qui vont être cruciaux dans les semaines qui viennent.
Et on aura évidemment l'occasion d'y revenir dans les semaines qui viennent,
Absolument.
comme vous le dites, Daniel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine sur Radio Judaïka. On se retrouve lundi prochain.
À bientôt.